comment fixer les priorités, comment choisir, qu'est-ce que, parce que parfois, est-ce que j'accepte de dire non, comment je me positionne au non, par exemple, quand je dois répondre par la négative à une sollicitation, à une demande, etc. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'abord une relecture de l'année passée. Une relecture de l'année passée, c'est-à-dire revoir l'année 2021-2022, donc l'année scolaire passée, à travers plusieurs critères. Je vous en donne quelques-uns. Premièrement, qu'est-ce qui vous a dynamisé durant cette année passée? Qu'est-ce qui vous a soutenu? Qu'est-ce qui vous a rempli de joie? Donc, premièrement, se poser et regarder l'année passée, relire l'année passée. Qu'est-ce qui vous a dévitalisé? Qu'est-ce qui a été raté? Qui vous a semblé raté? Qu'est-ce qui vous a semblé être un frein, être un obstacle, est-ce que vous avez des appréhensions, peut-être pour cette année qui commence? Donc, ça, c'est bien de les nommer aussi, de dire, tiens, qu'est-ce qui m'a dévitalisé dans cette année qui s'est terminée, et qu'est-ce qui me semble bon à clarifier? Ça peut être clarifier une relation, clarifier votre vie professionnelle, clarifier des engagements dans des associatifs ou dans les paroisses, etc., dans les mouvements. Et puis, un autre point, c'est qu'est-ce qui me, quand vous vous projetez dans cette année qui vient, qu'est-ce qui me dynamiserait? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette année 2022-2023? Qu'est-ce qui me donnerait envie de faire? Donc, je trouve que c'est bien de relire à l'aune de ces quatre critères. Donc, qu'est-ce qui vous a dynamisé? Qu'est-ce qui vous a dévitalisé? Qu'est-ce qui vous semble important à clarifier? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Qu'est-ce qui vous dynamiserait dans l'avenir? De dire comment, au fond, je vois les priorités. Et ça veut dire, concrètement, prendre un temps chez soi, en silence, en solitude, etc., et répondre à ces questions. Je trouve que c'est déjà... Parce qu'il y a un risque dans notre société, puis nous sommes dans la société, etc., il y a un risque d'une sorte de course en avant, si vous voulez. Il y a un risque de toujours plus... On enchaîne les choses. Et ça, c'est... Même des retraites, vous pouvez les enchaîner, ça, mais on ne s'approprie pas, j'y reviendrai plus tard, mais on ne s'approprie pas vraiment ce qu'on a vécu. Et à travers ces quatre critères, je trouve qu'il y a une belle manière de relire l'année qui s'est achevée et d'en tirer aussi. Il y a des choses qui vous apparaîtront. Et si vous êtes accompagné spirituellement, peut-être vous avez un accompagnateur, une accompagnatrice spirituelle, je trouve que c'est quelque chose à faire, un exercice pratique, assez simple, mais qui demande au fond le fait de le faire en face de quelqu'un, avec quelqu'un sur cet exercice, l'autre va poser des questions et donc va faire miroir d'une certaine manière par rapport à ce que vous avez vécu. Donc d'abord la relecture de votre année. Et puis à travers ça, vous posez la question, je pense qu'on en avait parlé l'année dernière, mais la question de votre charisme. Quel est votre charisme? Alors, à quoi on voit que c'est quelque chose est un charisme? Un charisme, c'est faire facilement ce que d'autres font difficilement. Moi, un charisme, c'est un don. Nous qui sommes dans une attitude de foi, c'est un don de Dieu qui nous a été donné par le Saint-Esprit et qui nous permet de réaliser, parmi eux qui ont des charismes, de fédérer des groupes. Il y en a qui a un charisme d'organisateur, il y en a qui a un charisme de faire rire les autres, il y en a qui ont des charismes de mettre en relation des gens improbables ou de se connecter à des gens très différents d'eux. De, voilà, tous les cas, comment vous pourrez exprimer votre charisme, un don particulier que vous avez, et si vous n'y voyez pas clair, n'hésitez pas à demander. Demandez à ceux qui vous aiment, ceux qui vous entourent, à vos familles, vos amis. On a eu une conférence, on nous a demandé quel est notre charisme. Je ne sais pas trop quoi les réponses là. Posez autour la question autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez comme charisme? Et vous savez, j'accompagne beaucoup les couples, etc. Et moi, je pose beaucoup la question aux couples. Quel est votre charisme de couple? En quoi il y a quelque chose, un don particulier, une alchimie particulière dans votre relation? Vous voyez, donc je pense que... Et puis un autre point, c'est quels sont vos temps de respiration? Quels sont vos temps de respiration? C'est quels sont vos temps où vous refaites vos forces? où vous vous reposez, où vous, d'une certaine manière, vous, vous vous régénérez intérieurement, des temps de silence, des temps de solitude, des temps de, au contraire, d'un contact plus personnel, approfondi avec quelqu'un. Qu'est-ce qui refait vos forces? Et puis, un autre point, quels sont vos lieux d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des livres qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des lieux des pièces de théâtre, de la musique, des cinémas, au niveau artistique qui vous inspirent? Voilà, je trouve que c'est intéressant de se laisser inspirer parce que ça dit aussi une direction vers laquelle vous êtes invité à aller et ça dit aussi, d'une certaine manière, aussi un appel des priorités. Tout le monde n'est pas inspiré par les mêmes choses. Certains sont très inspirés par les questions artistiques, par exemple. Ben, c'est vrai que parfois, ça dépend des éducations, mais souvent, ce n'est pas mis en valeur, la partie artistique. Dans certaines éducations, on verra plus la réussite scolaire, on verra plus le parcours professionnel, etc. Et peut-être moins l'aspect artistique, alors que pour vous, c'est ce qui vous nourrit le plus, par exemple. Ou la partie spirituelle, vous sentez que la vie de prière, que les lectures de livres spirituels, religieux, etc., ça vous inspire. Pour l'action, je trouve ça intéressant d'avoir des lieux d'inspiration et de... Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me... Voilà. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Soyez pas inquiets si vous n'arrivez pas tout de suite à une réponse, parce que ça peut prendre du temps de se... Parce qu'à vos âges, on n'a pas forcément une claire vision de ce qui nous inspire ou de notre charisme, de notre... Bon, la relecture, c'est assez facilement, vous pouvez la faire. Mais d'où l'importance de l'accompagnement, d'où l'importance d'avoir un alter ego avec lequel ou avec laquelle on peut dialoguer et on peut qui nous questionne et qui nous fait avancer de ce point de vue-là. Et puis, donc ça c'est un premier point, c'est la relecture. Ensuite, c'est rentrer dans une logique de don. Rentrer dans une logique de don et le don, alors, parce que en fait, le don c'est un moteur à trois temps. Le don c'est un moteur à trois temps, c'est-à-dire que il y a d'abord le don accueilli, hein, s'accueillir soi-même, un don pour soi. La première étape du don, c'est l'accueil du don de Dieu, l'accueil reçu dans la prière, le contact avec les pauvres, l'accueil de sa famille, l'accueil de son histoire, l'accueil de son corps, de ses blessures, des capacités naturelles et surnaturelles. On est le fruit du don d'un autre qui fait ce que l'on est aujourd'hui, les parents, les amis, etc. Je trouve ça intéressant de dire... Choisir ses priorités, c'est rentrer dans une logique de don. Et la première étape du don, c'est pas se donner, mais c'est d'abord s'accueillir. S'accueillir, parce que précisément en m'accueillant, je découvre qui je suis, et en m'accueillant, je fais mienne mon histoire, par exemple, et toute la totalité. Et toutes les choses qui ne sont pas accueillies dans ma vie, que je n'arrive pas à accueillir dans ma vie, sont autant de blocages dans une logique de don et d'engagement, et donc de priorité à poser. C'est autant de blocages. Vous voyez. Donc c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'est difficile d'accueillir? Est-ce que c'est une rupture amoureuse? Est-ce que c'est le rapport à mon corps? Est-ce que c'est le rapport à ma famille ou à tel membre de ma famille ou à ma tel collègue ou à la hiérarchie, etc., dans la vie professionnelle? Voilà. Je trouve ça intéressant de recevoir les choses d'abord, de se poser comme dans une attitude de réception, et puis de rendre... Derrière ça, il y a une idée de gratitude. De gratitude, c'est-à-dire de... Je suis le fruit du don des autres. Il en faut beaucoup de monde pour arriver à la personne, à l'homme, à la femme que vous êtes aujourd'hui. Il en a fallu beaucoup de personnes qui se penchent sur votre humanité, hein, que ce soit évidemment vos parents, mais aussi vos professeurs, mais aussi un prêtre ou un religieux, religieuse, catéchiste, tous ceux qui ont pris soin du corps, les médecins, c'est intéressant de prendre soin. En fond, fixer les priorités, ça commence déjà par prendre soin de soi. Ensuite, on se donnera, on ne restera pas dans l'enfermement sur soi, mais on se donnera, mais c'est intéressant d'accueillir, et c'est l'occasion aussi de rendre grâce pour tous ceux à qui on doit ce que l'on est. Certains d'entre vous ont été dans le scoutisme, par exemple, ont reçu beaucoup avec le scoutisme. D'autres ont reçu beaucoup à travers des mouvements charismatiques, ont reçu beaucoup à travers telle ou telle source. En tout cas, c'est d'abord, je trouve, c'est le fait de s'accueillir, le don pour soi. Donc le don accueilli. Et puis ensuite, il y a le don à soi. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est non seulement il faut reconnaître que c'est un don, mais l'accueillir et se l'approprier. Vous voyez, je trouve que parfois, justement, il manque cette étape-là. C'est-à-dire qu'on se reçoit et on donne. Alors que je trouve que si on représentait un peu graphiquement le moteur à trois temps qui est le don, c'est on se reçoit, on s'accueille, donc il y a comme une vase où on laisse reposer ce que l'on a reçu, et ensuite, du débordement, on se donne. Vous voyez ? Mais cette deuxième étape souvent manque. Cette étape d'assimilation, cette étape d'appropriation, ce don recueilli d'une certaine manière, ce don où on va faire sien et telle ou telle chose que l'on a pu recevoir. Donc souvent cette étape est zappée, on reçoit et on donne sans prendre le temps de la contemplation, de l'assimilation qui fait que ce qu'on a reçu nous transforme. En quoi ça nous a transformé ? Oui, par exemple, l'exercice de relecture que je vous propose rentre dans cette deuxième partie. C'est-à-dire de don à soi, en quoi il y a eu une transformation de moi-même à travers l'année passée, en quoi ça m'a permis de modifier tel ou tel champ. Peut-être qu'il y a des amitiés qui se sont défaites, d'autres qui se sont créées. Voilà, de prendre le temps de s'accueillir, de se recueillir, je pense que c'est... on peut reconnaître qu'on a un don, on ne l'accueille pas forcément comme tel, on le fait pas sien, soit par fausse modestie, soit par timidité, on n'assimile pas tout ce qu'on a dans notre humanité. Voyez, donc, et je pense que ça a à voir aussi cette étape-là avec la confiance en soi. La confiance en soi qui n'est pas orgueil, il y a une légitime fierté de ce que l'on peut être. Je trouve que c'est important ça, parce que parfois on a pu entendre un discours dévalorisant ou mettant en garde contre la confiance en soi comme une possibilité d'orgueil. Oui, l'orgueil il se niche partout bien sûr, mais je trouve que le fait de s'approprier les choses, de s'approprier le don que vous avez, c'est quelque chose qui vous donne confiance. Et encore plus quand vous l'entendez d'une tierce personne dans l'accompagnement. Hein, c'est quelque chose qui... Le fait de valider, de faire valider par une personne, par un aîné dans la foi, hein, pas une personne dont vous êtes sûr du discernement, hein, qui est dans une personne dans laquelle vous avez confiance, faire valider le don reçu, je trouve que ça permet de dire, voilà, c'est pas juste le fruit de mon imagination. C'est pas juste le fruit de mon imagination, c'est pas juste le fruit du hasard. J'ai vraiment reçu quelque chose, il y a quelque chose qui m'habite et qui me transforme. Et de me laisser transformer, d'accueillir et de recueillir dans le silence, la contemplation, l'appropriation, recueillir au fond le don qu'on a reçu. Donc je trouve que c'est intéressant, cette deuxième dimension de cette vasque, voilà, qui fait qu'on laisse reposer. Comme Marie, un peu dans l'évangile, vous avez l'équivalent, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous vous rappelez de cette partie-là, Marie qui garde ces choses dans son cœur, etc. Au moment de l'Annonciation, au moment de la nativité, etc. Il y a plusieurs choses où elle était une attitude contemplative, d'accueil. Donc cette deuxième partie qui est intéressante. Et puis ensuite, le don de soi, que l'on connaît davantage, à la fois le don de son intelligence, le don de sa volonté, de sa sensibilité. Hein, se donner, c'est se révéler. Et c'est vrai que parfois, les difficultés à se donner, donc à mettre les priorités, parce qu'on est tout à fait dans le fait de mettre les priorités, c'est mettre les priorités dans votre année, dans ce qui va être un lieu de don de vous-même. Donc d'abord s'accueillir, ensuite se recueillir, et don de soi, ce débordement, Parfois, on a peur de rentrer dans une logique de don parce qu'on a peur de se révéler. On a peur de se montrer qui l'on est. On a peut-être peur une certaine peur de souffrir. Ou d'être déçu parce qu'on a peut-être de grandes attentes par rapport à telle ou telle personne ou à l'institution. Et puis on a pu être déçu par le passé d'engagement qu'on avait pu prendre auprès de telle association, telle réalité, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'église, etc. Et du coup, on n'ose plus. Rappelons-nous qu'on guérit des mauvaises expériences par des bonnes expériences. C'est la manière de guérir. Si vous avez eu, peut-être l'année précédente ou avant, des mauvaises expériences dans le don de vous-même, posez-vous la question en quoi le fait d'avoir des bonnes expériences ne va pas être une source de guérison aussi. Que le don de vous-même ne va pas être aussi une source de guérison. Je trouve que c'est intéressant d'être... Parce qu'il y a ces peurs qui nous retiennent, la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, la peur de se révéler, ou alors tout simplement, ce qui nous empêche de fixer des priorités, c'est vouloir garder l'infini des possibles devant soi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire garder, au fond, ne rien choisir. Comme ça, tout est possible. Je ne me ferme aucune porte. C'est assez courant, ça. Garder l'infini des possibles comme un rond-point à 1000 sorties, j'aurai la jouissance de tourner comme ça autour de ces 1000 sorties, puis j'ai toutes ces sorties-là. Mais lui, il a pris cette sortie, il se prive des 999 autres. Oui, mais il a pris un chemin de vie. Toi, tu n'as pas pris de chemin de vie. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'il y a en moi ce garder l'infini des possibles de cette liberté mal comprise, parce que la liberté c'est une liberté d'eux. Plus je m'engage, plus je suis libre, par définition. Plus je me donne, plus je suis libre. Parce que qu'est-ce que la liberté si ce n'est cette capacité de s'engager, donc montre-moi ta liberté qui ne s'engage pas, qui ne se définit pas, qui ne se donne pas. C'est une théorie, c'est potentiel, mais il n'y a rien de vraiment acté. Donc je trouve que prenons conscience que ces peurs liées à l'engagement, et voilà, on parle d'engagement associatif, amicaux, d'engagement familiaux, donc professionnel aussi, parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut vous être un questionnement pour vous, quelles sont les priorités à mettre au niveau professionnel. Donc fait qu'on se heurte à un certain nombre de peurs en nous, et donc être attentif à ces questions-là. Et de se rappeler une chose, c'est que le don peut justement guérir nos blessures, nos manques de confiance. Comment grandir dans la confiance, confiance en soi, confiance en Dieu, en l'autre, comment grandir dans la confiance sinon en multipliant les bonnes expériences, en rentrant dans une logique de don? Et je crois que c'est cette capacité-là de rentrer dans une logique de don et donc de prise de risque. Et on voit bien que dans notre société, et peut-être le Covid n'a pas arrangé ça aussi, je trouve ça un peu cassé quelque chose, là, comme une logique, une dynamique de don aussi, ça cassait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça, j'accompagne un groupe de jeunes pros à Compiègne, à notre communauté près de Compiègne, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui a été, c'est bien d'en prendre comme une peur, on n'ose pas donner la main, tu vois, on n'ose pas la paix du Christ, comme ça, on fait la bouddhiste comme ça, on n'ose pas donner la main, on n'ose pas s'embrasser, on n'ose pas... Comme s'il y avait une sorte de peur de l'autre qui s'est développée, je trouve que ça a cassé quelque chose. Alors ça peut reprendre, mais soyons attentifs de ne pas nous laisser nous enfermer dans une sorte de contrôle excessif qui nous empêcherait de nous donner. Et on voit bien que notre société fonctionne comme ça, dans le risque zéro, le principe de précaution, etc., etc. Il faut des assurances partout, tout le monde, ouverture de parapluie partout, etc., etc., qui fait que surtout pas de prise de risque. Forcément, quand tu fixes des priorités, tu prends un risque. Parce que tu me risques de te tromper, mais c'est aussi, est-ce que c'est pas là-dessus aussi où tu apprends? Tu prends un risque. Et rentrer dans une logique de don, c'est prendre un risque. Un risque d'être déçu, mais aussi le risque aussi d'être heureux, le risque de développer ses talents, de voir le côté, de développer une partie de ce qu'on n'avait pas vu peut-être telle ou telle chose dans notre vie, et le fait de rentrer dans une logique de don et de prendre un engagement et de fixer des priorités pour notre année, fait qu'au bout de ce temps, on dit, ben oui, finalement, ça me plaît, ça me réjouit, ça m'épanouit, ça me... Bon, donc, soyons attentifs là-dessus, d'accepter une prise de risque, voilà, de ne pas écouter de toutes ces sirènes du contrôle qui fait voilà, que, surtout, il faut se protéger de toutes parts. Et je pense que fixer des priorités, c'est accepter aussi... J'aime bien ce qu'en Pape François, il dit, il faut que l'Église... Même si elle fait des initiatives qui marchent pas, même si c'est comme un hôpital de campagne, voilà, on arrive. C'est mieux d'arriver blessé devant le Seigneur parce qu'on a essayé un truc, puis ça n'a pas marché, puis on a bon, voilà. Mais plutôt que d'être plongé dans la naphtaline, à ne pas bouger et pétrifié de peur d'être blessé. Vous voyez, donc voilà, je pense que c'est intéressant de voir que Jésus ressuscite avec ses blessures. C'est intéressant de voir ça. On aurait pu penser, non, ben non, après on va montrer un dieu, super bodybuildé, etc., nickel, chrome. C'est avec ses blessures aussi qu'il ressuscite. Hein, mets ton doigt ta main dans mon côté, ton doigt, dit-il à Thomas, dans les traces de mes plaies, de mes mains, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est intéressant qu'après la résurrection, Jésus monte ses blessures. Et je trouve que le fait d'accepter de... Nous portons des blessures, que ce soit parce que d'autres ne se sont pas donnés, n'ont pas pris soin, ou se sont mal donnés, ou que nous-mêmes nous avons posé des choix qui nous ont ensuite entraînés dans des chemins, dans des impasses au fond. Bon, nous portons ces blessures-là, mais je trouve ça intéressant de, comme chrétien, on a un regard différent. On voit que de la blessure peut jaillir la vie, de la faille peut jaillir la lumière. Oui, c'est vraiment un regard profondément chrétien, évangélique, de dire, le Christ est celui vraiment qui nous apprend, évidemment, la logique du don en se laissant blesser et ô combien. Donc je trouve c'est intéressant de, peut-être que chacun s'interroge là-dessus sur où est-ce qu'il en est de cette capacité à se révéler, à s'exposer, voilà, quitte à prendre des risques. Ou pas, ou est-ce que vous êtes beaucoup dans ce contrôle et cette hyper-vigilance, cette hyper-protection, voilà, pour ne pas vous laisser atteindre. Donc, voilà, donc la personne est faite pour la personne, qu'elle soit humaine ou divine, on grandit dans la maturité en prenant soin de l'autre. Hein. C'est sûr que c'est un lieu de croissance, le fait de fixer les priorités, c'est-à-dire de fixer. Il y a un discernement. Quoi donner, à qui donner, avec quelle intensité donner. Et peut-être à revisiter, je pense particulièrement à votre vie pro, à revisiter votre vie pro. Fixer les priorités, c'est dire non. C'est dire non. Fixer les priorités, c'est, certaine manière, accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Et dire non, c'est dire je. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez dit non? Parce qu'on prie, nous on est, on est très, il faut prier Notre-Dame du Oui, etc. Vous avez entendu ça, etc. Prier Notre-Dame du Oui, etc. Très bien. Mais être chrétien, c'est aussi dire non. Et puis être dans une dimension de vie, de choisir des priorités dans sa vie, en tout cas dans son année, c'est dire non à d'autres choses. Donc, intéressant de dire non, c'est dire je. Oui, dire non, c'est dire je sais. C'est affirmer justement qu'est-ce qui compte vraiment pour moi. Qu'est-ce qui compte pour moi. Qu'est-ce qui a du sens. Qu'est-ce qui fait que je suis capable de donner de la peine. Parce que vous avez reçu les uns les autres beaucoup de choses à travers votre éducation, vous avez de bonnes intelligences, une bonne formation, etc. Donc, grosse capacité de don. Mais de se poser la question, justement, qu'est-ce qui... Où est-ce que ça fait sens? Où est-ce que ça... Qu'est-ce que je veux vivre qui va permettre à ce charisme que j'ai de se développer? Vous voyez, je pense que c'est... c'est quelque chose qui, sur lequel vous pouvez vous interroger et du coup d'accepter de dire, ben voilà, telle chose n'est pas prioritaire. Alors, parfois, je pense à la vie professionnelle. La vie professionnelle, c'est pas forcément facile de mettre le curseur parce que ben, vous êtes peut-être, quand on est jeune professionnel, etc., on n'a pas forcément beaucoup de latitude. Et puis dire non à des au niveau horaire, par exemple, et parfois il y a des horaires complètement dingues, mais bon, ça dépend des métiers, mais il y a des débordements clairement de la vie pro sur la vie perso, clairement. Est-ce que vous êtes capable de dire, mais non, là j'ai besoin de ce week-end, je me déconnecte. Est-ce que vous arrivez, le droit à la déconnexion, il y a dans certaines entreprises, le droit à la déconnexion. Est-ce que je me déconnecte? Ou est-ce que je veux être dans une, quelque part, reconnu et donc valorisé parce que je suis le mec qui a eu à minuit répond au mail +1, quoi. Tu vois, c'est, où est-ce que j'en suis là? Quelque part, fixer les priorités, ça revisite votre culpabilité. C'est-à-dire, quelque part, fixer les priorités, ça revisite qu'est-ce qui est important, et donc du coup, accepter de ne pas répondre aux attentes de tous. Il y a des personnes aux attentes desquelles vous ne pourrez pas répondre, vous ne voulez pas répondre. Bon, alors, c'est vrai que si plusieurs fois on dit non à soin de +1, c'est bien de trouver un plan B, parce que ça, potentiellement, vous êtes sur la voie de sortie, quoi. Donc sur le toboggan, en mode... siège éjectable, quoi. Donc bon, mais parfois aussi c'est d'avoir la dire ce travail là que j'ai, c'est pas quelque chose qui correspond à mes valeurs, et je trouve que vous êtes, et c'est très heureux, vous êtes beaucoup plus comme ma génération, mais vous êtes beaucoup plus exigeant en termes de correspondance entre ce que vous portez comme valeur et votre vie professionnelle, et ça je trouve ça très heureux. Voilà, et c'est parce que vous avez aussi une formation qui vous permet de choisir, etc. Et dans les critères de choix, les valeurs du travail que porte votre travail vont être importantes. Avec toujours une question, surtout pour ceux d'entre vous qui ont un job vocation. Qu'est-ce que j'appelle un job vocation? Évidemment, tout ce qui est de l'ordre du soin, tout ce qui est de l'ordre, donc, que ce soit médical, paramédical, etc., tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement, tout ce qui est de l'ordre du maintien de l'ordre, de l'armée, ce sont des jobs vocation. Et avec la difficulté quand on a, ou le soin des pauvres, de l'accompagnement des personnes plus pauvres, vous êtes impliqué dans des associations, mais c'est votre travail. Est-ce que j'accepte de limiter? Est-ce que j'accepte de... c'est pas facile, parce que du coup, c'est assez culpabilisant, parce que vous dites, ben, si je pars, ben voilà... je suis médecin, je suis au service des urgences, mais voilà. Puis à côté, on peut très vite tomber en mode sauveur. C'est le mode sauveur qui fait qu'on a besoin de moi, je suis valorisé. Du coup, j'arrive pas à mettre une limite à la quantité de travail parce que je suis dans un job vocation. Et donc, qui a du sens, qui me valorise, mais au fond, je me mets dans une position. Vous savez qu'il y a trois positions qui sont toxiques dans les relations. Il y a le fait d'être sauveur. Il y a le fait d'être victime, et il y a le fait d'être bourreau. Ce qu'on appelle le triangle maléfique, le triangle de Cartman, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, les sauveurs, bourreaux, victimes. Donc, c'est trois positions toxiques, c'est-à-dire, c'est trois positions qui font qu'on n'a pas une relation à l'autre ajustée. On est dans une forme de toute-puissance. Or, rentrer dans une logique, accepter de dire non, c'est sortir de la toute-puissance. Et je pense que voilà. Donc posez-vous la question par rapport à votre vie professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose à retravailler pour cette année qui vient? Et de dire quels sont au fond vos fondamentaux. Vous connaissez cette parabole des gros cailloux. Je vous la redis encore une fois, mais bon, que vous la connaissez bien. Voilà, il y a des cailloux. Ce prof là qui met devant les élèves un seau avec des gros cailloux, du sable, du gravier, de l'eau. Il dit comment faire rentrer tout? Alors s'il met d'abord l'eau, le sable, le gravier, les gros cailloux ne rentrent pas. Mais si c'est l'inverse, tout rentre. C'est-à-dire, si je mets mes priorités, mes fondamentaux pour cette année, que j'ai déterminé, que j'ai dit ça, c'est, et que je vais revisiter au cours de l'année. Moi, ma religion, c'est la religion de l'agenda. C'est-à-dire quoi? C'est quelles sont les priorités se voient dans ton agenda. Donc ça peut être intéressant de reprendre votre agenda, j'en suis encore à l'agenda papier, vous avez tout, voilà, en scrollant, vous avez votre agenda électronique. Et vous, qu'est-ce qu'a été relire son agenda de l'année passée, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai vécu l'année passée, parce que parfois on oublie. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est assez passionnant de les priorités, qu'est-ce qui sont pour vous les incontournables. Est-ce que c'est le lien avec ma famille? Est-ce que vous êtes dans une relation amoureuse? Du coup, je veux donner du temps à cette relation parce que j'y crois, parce que ceci. Donc voilà. Est-ce que c'est ça qui, pour moi, est un incontournable? Est-ce que pour moi, ce qui est un incontournable, c'est de me former? Est-ce que ce qui est un incontournable, c'est peut-être réfléchir à une réorientation professionnelle? Je veux vivre ça cette année. Oui, donc, je trouve ça intéressant de pouvoir être attentif là-dessus, de vous poser la question pour justement pour fixer des priorités et de valider dans le courant de l'année les différents. Où est-ce que vous vous êtes peut-être même de les écrire. Moi, je vous conseille de les écrire et la relecture de l'écrire. Il y a comme ça, dans certaines retraites, on s'écrit à soi-même une lettre. Et une retraite de discernement qu'on organise, c'est à l'abbaye d'Ourscamp, on opte pour cette, en fin d'année, il y a une retraite de discernement, on opte pour cette option-là de d'écrire, les priorités qu'on a fait. À partir de la relecture, on a sorti des priorités et donc et de les relire. Est-ce que je suis toujours fidèle à ces priorités? Pourquoi je suis pas fidèle? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait j'ai changé d'option? C'est pas juste vivre, c'est vraiment être aux commandes de sa vie, pas subir sa vie. Parce que pas mettre des priorités, c'est subir sa vie. C'est fait que les autres, tu obéis aux priorités des autres. Et ça, c'est non. C'est pas ça qui va t'aider à grandir. C'est pas ça qui va t'aider à grandir en maturité, à devenir un homme, une femme debout. Voilà, c'est pas juste en vivant par procuration, en faisant plaisir, parce que je n'ose pas dire non, parce que je n'aime pas le conflit. Oui, il y a parfois des éducations comme ça. Hein, donc soyez attentifs. Et du coup, je vis par procuration. Toutes les propositions que je reçois, ben je dis oui, etc. Bon, parce que j'ai pas de cap. J'ai pas de direction vers laquelle me rendre. Donc je trouve que c'est parce que j'ai peut-être pas assez de connaissances aussi de moi-même, parce que j'ai pas assez de confiance en ce que je porte, en ce que le Seigneur a semé. Oui, cette confiance dans ce que vous portez, je trouve que c'est important. C'est les dons, les dons de Dieu. C'est ce qui permet de développer vos charismes, de porter du fruit. La question de la fécondité de vos vies. Hein, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes, en tout cas, vous n'êtes pas mariés, ou rarement mariés, ou beaucoup, vous êtes célibataires, etc. Mais bon, c'est pas pour ça que votre vie ne porte pas du fruit. Quelle est la fécondité de ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui porte du fruit dans ma vie? Et justement, par rapport à cette question du célibat, qui est parfois, pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas un célibat plus subi qu'autre chose, pour qu'il soit moins subi, je trouve que de poser les priorités qui permettent de porter du fruit, c'est une des manières de ne pas subir son célibat. Alors, je pense que la grande majorité d'entre vous, vous avez l'aspiration à fonder une famille, à rentrer dans une relation amoureuse, etc. Bon, je sais que c'est une attente pour beaucoup. Il faut être patient, et puis c'est pas si simple que ça. Mais ça se prépare. Je trouve que ça se prépare, la fécondité ensuite qu'on a dans une vie amoureuse et une vie de famille, se prépare par le choix de la fécondité que vous avez fait quand vous étiez célibataire. Et je trouve que il y a quelque chose qui retentit. Je veux dire, vous voyez les choses comme étant liées. Quoi. Donc c'est pas. N'attendez pas, oui, je porterai du fruit quand je serai père ou mère de famille. Ben non. Oui, quand tu seras, mais pas que. Aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, pour la grande majorité d'entre vous, si c'est la totalité. Bon, mais où est mon lieu de fécondité? Où est-ce que je porte du fruit? Où est-ce que je peux faire du bien? Où est-ce que je suis heureux? Vous voyez, c'est ça les priorités, je trouve. Et derrière ça, ça construit ce qui sera la fécondité plus grande dans l'engagement plus définitif que vous porterez ensuite dans la vie matrimoniale pour beaucoup d'entre vous, certains peut-être dans la vie consacrée, on ne sait pas, mais bon. Mais je trouve que c'est intéressant de préparer ça, de dire j'ai préparé le chemin et le terrain d'un engagement plus définitif en choisissant ce qui était fécond, c'est-à-dire en renonçant à ce qui était stérile dans ma vie. Qu'est-ce qui ne porte pas du fruit? Qu'est-ce qui est du côté mondain? Vous voyez ce que je veux dire, le côté mondain qui fait que on sent qu'on veut plaire à une image, on veut coller à une image, on veut correspondre, etc. Mais encore, on est dans le vouloir plaire. Et plaire, c'est une plaie. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'on vit par procuration. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est et à vous interroger vraiment dans votre parcours, c'est à travers ce choix de la fécondité, de ce qui porte du fruit, comment on peut dire peut-être plus clairement, parce que c'est peut-être un peu encore vague, où est-ce que vous voyez que vous faites du bien? Je suis sûr que vous faites beaucoup de bien autour de vous. J'en suis convaincu. Mais où est-ce que vous voyez que vous faites du bien? Où est-ce qu'on vous retourne? Peut-être aussi, vous dites, mais là, ça m'a fait beaucoup de bien d'être avec toi. Vous sentez les gens heureux à votre contact. Ça, c'est un lieu de fécondité. Vous voyez, c'est un lieu de fécondité. C'est un lieu où vous portez du fruit. Et de choisir ces lieux-là, où est-ce que vous voyez vous-même que vous êtes dans une joie, dans la joie, dans une vraiment une vraie joie, dans certaines circonstances, dans certaines situations, ça vous met vraiment dans la joie, hein, qui est un lieu aussi de fécondité. Qu'est-ce qui vous raccroche du Seigneur, qu'est-ce qui vous en éloigne? Oui, qu'est-ce qui voilà, c'est aussi un questionnement pour dire dans les priorités, qu'est-ce qui va me permettre d'aller dans tel sens ou dans tel autre. Voilà, je pense que c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, d'être voilà sur parce que vous allez être sollicité, vous allez être pour beaucoup d'entre vous peut-être déjà engagé dans un certain nombre de choses, ou alors en réflexion par rapport à d'autres choses. Voilà, donc soyez attentif à ce que vous pouvez porter et à ce que vous pouvez donner et à vivre, à prendre votre vie en main d'une certaine manière, à faire des vrais choix. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous... des choses qui vous voulez donner des témoignages ou voilà, quelque chose qui peut vous éventuellement vous aider à...
Oui. Oui.
Comment mettre les limites, c'est ça un peu? Oui. Que ce ne soit pas mon seul lieu de fécondité, c'est ça? Comment faire pour que ce ne soit pas mon seul lieu de fécondité? C'est vrai que c'est métier vocation. Que je me définisse par... En plus, qu'ils sont parfois voilà, tout ce qui est de l'accompagnement, l'accompagnement et l'enseignement aussi, c'est ça? Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très valorisé aussi, très valorisant. Donc, mais au niveau horaire, tu arrives à mettre... Bon, ça c'est important, de ne pas dépasser, de ne pas... Maintenant, pour comment faire pour ne pas s'identifier de n'être que la personne qui accompagne, que la personne qui enseigne, que le médecin, que celui qui est membre des forces de l'ordre, etc., bon, des forces de sécurité, voilà, que je suis que ça. C'est de se dire, où sont mes autres lieux de fécondité? Ça, c'est un lieu, bien sûr, ce travail-là, l'enseignement, l'accompagnement, le soin... les forces de sécurité, etc., c'est des choses extrêmement importantes et belles. Mais est-ce qu'il y a d'autres lieux où je fais du bien. Donc je pense que pour ne pas se définir que par rapport à sa propre, à son propre job vocation, et donc d'être, par exemple, si quelqu'un qui est médecin, etc., mais bon, est-ce qu'il sera un autre lieu, ce sera accompagné des jeunes adolescents en aumônerie, les aider, etc., qui est un lieu complètement différent, et de préférence, choisissez un lieu qui est vraiment différent de la... Très, très différent de ce que vous vivez. Par exemple, si tu es enseignant, c'est bon, de se mettre dans l'alphabétisation, c'est un peu la même chose, quoi. Bon, c'est bien, mais quelque chose qui soit très différent, du coup, qui fait que, déjà, qu'on ait plusieurs centres d'intérêt et qu'on ne soit pas résumé et qu'on ne se résume pas soi-même et que les autres ne nous résument pas à notre simple job vocation, par exemple. Je ne sais pas si ça répond, ça, c'est bon ? Oui ? Oui. Alors, donc, critères de discernement concernant les amitiés, le temps. Je pense que là aussi, c'est peut-être plus vrai à Paris parce qu'on peut, il y a une sorte de course en avant, on peut se perdre un peu dans vouloir ne pas manquer une rencontre amicale, ne pas montrer une idée, ne pas manquer, etc. etc. Le critère de discernement, moi, je me dirais. Déjà, est-ce que vous avez un premier cercle d'amis ? Un vrai premier cercle ? C'est-à-dire des gens avec qui vous pourrez craquer. Vous pourrez dire j'en ai ras-le-bol, vous pourrez pleurer, vous pourrez rire. Voilà. Des gens avec qui vraiment, sans filtre. Je trouve que c'est un bon critère. D'abord, ce premier cercle d'amis. Des gens vraiment dans lesquels vous avez confiance et dans le discernement desquels vous avez confiance. Parce que ça fait beaucoup. Dans l'amitié, moi, ça compte beaucoup. En tout cas, je trouve que c'est la communion de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on sent que l'autre, je sens que l'autre me comprend de l'intérieur. Et je comprends l'autre de l'intérieur. On n'a pas besoin forcément de beaucoup d'explications, mais on voit que. Donc, je trouve ça intéressant dans les amitiés. Et puis d'accepter qu'il y ait des amitiés qui bougent, parce que ne serait-ce que pour aller à la mobilité géographique. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois on peut être injuste avec ses amis en ne donnant pas assez de temps, par exemple. Ou injuste avec sa famille, parce qu'on ne priorise pas ça. Donc... Mais c'est difficile de dire, c'est vraiment à vous de voir où mettre le curseur en termes de temps dans les amitiés ou dans les relations familiales, de dire au fond, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose où on m'a fait la reproche, tiens, ben, t'es jamais disponible. Dès qu'on veut te voir, c'est la croix et la bannière. T'es un peu inaccessible. Maintenant, voilà. Donc, du coup, de moins en moins, tu reçois d'appels pour pouvoir partager une soirée ou un week-end, etc. Donc, c'est un petit warning, un signal faible qui s'allume en disant tiens, est-ce qu'au fond dans ma manière de voir ma vie je laisse une place aussi à une certaine gratuité, parce que l'amitié c'est de la gratuité, c'est pas la vie pro, c'est une certaine gratuité. Est-ce que voilà, je pense que ça répond à ta question. Voilà, je pense que ça peut tout à fait être une manière de voir les choses. Quoi. Oui.
Vous avez dit tout à l'heure que faire un choix, c'est être positif. Est-ce que vous pouvez développer ce point ?
Oui. Merci, parce que en fait, c'est la manière de voir habituellement. On veut dire, plus on s'engage, les gens disent en fait, si tu veux être libre, ne t'engage pas. Nous avons une autre manière de voir les choses, ce qui est l'inverse. Cette liberté, c'est une liberté pour. C'est-à-dire que c'est une liberté de don. Alors, montre-moi ta liberté qui ne passe jamais à l'acte. Montre-moi ta liberté qui ne se transforme jamais en prise de décision. Oui, c'est un potentiel, mais ça reste virtuel. Nous disons que plus nous nous engageons, plus nous sommes libres, parce que plus nous existons, plus nous mettons en œuvre notre capacité de choix. Qu'est-ce que c'est que la liberté, sinon mettre en œuvre sa capacité de choix? Et qu'est-ce que serait une liberté qui ne choisirait jamais? Oui, je pense que c'est vrai parce que beaucoup dans la société, tu veux être libre, t'engages pas. Nous disons l'inverse. Nous disons l'inverse, c'est que plus je m'engage, plus j'exerce cette capacité de don, qu'on appelle liberté aussi. Plus je l'exerce, plus je le me donne. Et je pense que c'est une autre manière de voir. C'est une autre logique. Parce que nous croyons qu'aussi que derrière ça, ce qui rend heureux, c'est rentrer dans une logique de don. Et ce qui rend triste, une forme de tristesse qui peut nous habiter, c'est cette incapacité, c'est garder justement ce rond-point à mille sorties. Je garde l'infini des possibles devant moi. Et je dis, je suis tellement libre, mais tellement seul. Tellement seul. Et je pense que ça a à voir aussi. Et donc, c'est une autre manière de voir. Je pense que c'est, pour nous, cette liberté-là, elle est dans la capacité d'engagement. Elle est dans la capacité de... Et qui est synonyme de joie aussi. Alors, est-ce que les gens qui ne s'engagent pas sont plus... Du coup, ça veut dire qu'on ne pense qu'à soi, quelque part, on est une sorte de... Bon, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est intéressant d'entendre un autre point de vue qui n'est pas habituel. Parce que vous entendez beaucoup de points de vue, si tu veux être libre, ne t'engage pas. Nous, c'est l'inverse. Je pense que c'est comme disciple de Jésus, dans l'Évangile, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment... C'est rentrer dans la logique de communion avec l'autre, donc c'est prendre un risque. Pas s'engager, rester dans... Oui, on ne prend pas de risque, oui, mais est-ce qu'on grandit, est-ce qu'on porte du fruit? Je suis plus perplexe, quoi.